je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Que demeuriez les vitsuaires, tous ces marvés tartos, mettons de Sravel, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, par ce bonjour, en vous souhaitant à Pouchourle, nous allons papoter d'un breuvage ancestral, d'une boisson fermentée, la plus ancienne boisson alcoolisée inventée par l'homme. Et ici, du côté Schiltigheim, il y avait pléthore de brasseries. Mais l'ogre Heineken a tout englouti sur son passage. Et peut-on appeler cette bière d'Amsterdam de la bière? Évidemment que non, pour moi c'est de la bibine et je pèse mes mots. Heureusement que des bières ancestrales refont surface et c'est tant mieux pour nous. Mon invité du jour est l'héritier d'une longue lignée de brasseurs. Est-ce qu'il, Christian?
Skill, chers auditeurs.
Et sois le bienvenu dans notre beau studio.
Merci de ton accueil.
Tu as vu un peu tous ces micros?
On est beau, on est bien, là, on va
être
bien.
Et ce rouge, et Thomas dans le studio, dans son aquarium,
c'est
tu vois
beau.
Hein? Alors, parle-moi un petit peu, Schiltigheim était quand même la grande cité brassicole autrefois.
Alors au départ, en fait, les brasseurs sont installés au centre-ville de Strasbourg et c'est fin 1800, début 1900 qu'ils ont besoin de plus de place hein, parce que leur bière devient de plus en plus réputée et demandée. Et donc les brasseurs du centre-ville de Strasbourg, dont mon ancêtre, qui va en fait se marier à la famille Knoederer, qui sont des brasseurs dans le coin de la porte de l'hôpital, et ben ils vont déménager vers les banlieues.
Donc Schiltigheim, parce que c'était un peu la campagne à l'époque.
Exactement. Il y avait des terrains disponibles, la nappe était accessible, on pouvait creuser aussi pour y construire des caves, parce qu'à l'époque on brassait que pendant les périodes hivernales et la bière avait besoin d'être stockée au frais. On n'avait pas encore découvert le froid industriel, donc on stockait
les frigos, tu veux dire?
Exactement. Ouais. Ouais. Donc
alors ils mettaient des pains de glace comme ça,
Des pains de glace qu'ils allaient chercher au Wacken entre autres. Ils stockaient la bière tout le long de l'été
dans des tunnels
gigantesques,
engloutis dans le sol.
Exactement.
Ouais, je me souviens, j'ai visité ça un jour, à brasserie d'Achillic.
Donc là, on est dans les banlieues de Strasbourg. Ça, c'est Königshofen, c'est Kronenbourg, c'est Schiltigheim.
Il y avait beaucoup de brasseries, il y avait beaucoup de bières à l'époque. Hein. On buvait que de la bière et du gros rouge dans ces années-là, dans les années 1900. Ils en tous de plaisir. Je t'en prie.
La bière a été et reste une boisson hygiénique, une boisson nourrissante. Alors, bien sûr, à consommer avec modération.
Elle ne fait pas grossir, cette bière?
C'est pas obligatoirement la bière. C'est l'apport calorique global quotidien, on va dire. Donc, c'est sûr qu'il faut tenir compte du fait que la bière a un apport avec les calories et l'alcool qu'elle contient. Mais c'est un mythe de dire que tous les brasseurs ont un gros ventre. J'en suis la preuve.
Oui, mais la gente féminine, elle ne boit pas beaucoup de bière. C'est peut-être pour cette raison, parce qu'elle fait attention à sa ligne.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Les femmes étaient à l'époque même brasseuses. Hein, pendant plusieurs siècles, c'est les femmes qui brassent la bière à la maison. Les femmes sont aussi des consommatrices de bière, et de plus en plus même.
Tant mieux. Et alors, Christian, tu as baigné dans cette potion magique. Quand tu étais petit, tu te baignais dans la bière?
Pas tout à fait. J'ai eu la chance de me rendre compte, à l'âge de mon adolescence, que effectivement, on avait cette belle histoire familiale, quand même un peu à dépoussiérer, parce que l'histoire s'était terminée dans la fin des années 60, début des années 70. Donc techniquement, moi, mes parents sont pas brasseurs, hein, sont pas issus directement de la brasserie Perle. Mais c'est vrai que on était connectés très proches, et c'est mon arrière-arrière-grand-père Pierre Eiffel à l'époque qui va
Les années quoi, 1880.
On est dans les années 1882. Et là, il va baptiser la bière fabriquée par la famille Knoederer, donc sa belle famille.
Et le nom,
la Perle.
La Perle. Alors la Perle, c'est quand même un joli nom. C'est presque de la poésie. C'est précieux. On en fait des bagues, on en fait des colliers, quelque chose qu'on porte sur soi. Et là, et cette perle, on l'engloutit dans son ventre et on s'abreuve avec ça. Parle-moi un petit peu de ce nom, Perle.
Alors là, on a une image de l'ancêtre assis en extérieur dans un jardin avec un beau verre de bière sur un guéridon. Et on dit que c'est là qu'il a trouvé ce nom évocateur de la bière Perle. Et en clin d'œil à ce joli nom, c'est vrai, Et on a choisi d'en mettre quelques-unes sur notre nouveau bâtiment qu'on peut admirer là.
Sur l'autoroute, surtout quand on y passe, voilà. On ne peut pas le louper. Voilà. Couleur orange flashy avec perles en grand. Et...
Donc ouais. ce sont plus que des bulles de bière qu'on admire, ce sont des perles.
Des perles, ouais, c'est beau ça, c'est beau. Et alors, on peut dire que c'est ton tic-tac bababa en alsacien, on dit que c'est l'arrière-arrière-grand-père, c'est le tic-tac, tic-tac, la montre, tu sais. Je t'apprends quelque chose.
Tu m'as encore appris quelque chose.
Avec il le faut. Peut-être aussi à nos auditeurs. Donc, c'est le tic-tac bababa qui est à l'origine de tout ça, du nom de cette bière. Et alors, il avait une grande usine, hein, je crois, d'après ce que j'ai vu sur les photos hier soir chez toi.
Alors, il va déménager l'activité, on va dire, qui était historiquement au centre-ville de Strasbourg. Qui
à quel endroit ?
Une auberge où on brassait et on vendait la bière sur place. Hein. Et là, on est à l'Éléphant, donc à côté du Cerf d'Or actuel, hein, porte de l'hôpital.
Ah, porte de l'hôpital,
voilà,
d'accord.
Exactement. D'ailleurs, si vous visitez le restaurant le Cerf d'Or, ouais, vous verrez qu'il y a encore des vestiges de perles de l'époque.
Je regarderai parce que on a fait de temps en temps des petites réunions là-bas avec notre association. Je regarderai.
Ouais. Voilà. Et il va déménager début des années 1900 sur la route de Bichevillers. Et il va construire la version numéro 1 de la brasserie Perle à Chilic. Puis, quelques années plus tard, aucune de ses trois filles va reprendre. Et il va trouver en Charles Kleinknecht un repreneur, un ingénieur brasseur qui s'était formé plusieurs années pour prendre la suite de Perle.
Et elle était exactement où, à quel endroit, cette
Elle était exactement rue Perle. Rue Perle, qui est perpendiculaire à l'entrée de la route de Bichevillers. On est situé entre les deux.
Il y a Ungemar, je vois bien, où il y a le cimetière.
Exactement,
y a
juste après Ungemar. Vous avez Ungemar, qui était la conserverie, puis Kiri, qui était l'industriel du froid, justement, qu'on a évoqué avant. Et juste après, la brasserie Perle.
Donc c'est là où maintenant il y a un bâtiment de France Télécom qui va être arraché, là, enfin je ne sais plus.
Ça c'était il y a 10 ans.
C'était il y a 10 ans. Moi, je passe pas souvent là-bas. Ouais.
Donc aujourd'hui, c'est de l'habitation.
Ah, c'est de l'habitation.
Mais la rue Perle est encore présente.
Elle existe toujours.
Et à l'arrière de cette rue, contre la rue des Chasseurs, il y a encore un petit muret de briques qui serait-il encore le parti de l'enceinte historique de la brasserie.
Il faut que tu le récupères, ce mur de briques.
Allez, bonne idée.
C'est une bonne idée, ouais. Je t'aiderai avec une brouette, on fera ça ensemble avec des piolets. Alors, Christian, alors, tu as remis, donc, ce qui est extraordinaire, c'est que tes parents n'ont pas fait ça, mais toi, tu avais envie de remettre à jour la perle de tes aïeux, la bière de tes aïeux. T'avais envie de... Donc, c'est une belle aventure, tout ça.
Il faut se rendre compte que la bière, c'est contagieux. La bière, une fois qu'on a mis la main dedans, ben on est envoûté par tout cet univers brassicole, cet univers scientifique, cet univers de convivialité aussi, et cet univers aussi agricole. Hein. Hier encore, avec mon équipe, on est parti au comptoir agricole à Brumath qui distribue les houblons de nos planteurs houblonniers alsaciens pour aller les sentir, les évaluer. C'était un super moment. Et c'est-à-dire que là, on va dans les champs. Enfin, on récupère le fruit de notre terroir alsacien et on essaye d'identifier quelles sont les variétés qui nous plaisent le plus pour travailler nos recettes cette année.
Et tu as cette chance de chercher du houblon en Alsace, dans les houblonnières, là ? Tu as l'occasion ?
Voilà, exactement. Ouais. Et ça, on essaye de travailler fort autant qu'on peut avec les acteurs locaux, que ce soit le houblon, l'orge aussi.
Parce qu'à l'époque, ce houblon partait beaucoup aux États-Unis. Je crois que toute la production alsacienne partait aux États-Unis. Je me souviens d'avoir fait des reportages pour la télé là-dessus. Et parce que c'était très cher, les gens ne pouvaient pas trop l'acheter. Est-ce que...
Le houblon alsacien avait ses lettres de noblesse, on va dire, il y a 30-40 ans. Et effectivement, les brasseurs, il y avait un brasseur américain qui était très friand. Et que je crois qu'une 80% du volume partait à l'époque.
Wow, oui,
et ça a vite basculé ce brasseur s'est fait racheter par un groupe qui avait des visions un peu plus financières, on va dire, et ça a secoué un peu cette filière, mais aujourd'hui qui s'en sort bien avec des nouvelles variétés qui sont intéressantes et d'ailleurs qu'on est fiers aussi de les aider dans leur développement parce qu'on participe à notre échelle, à notre taille, à des paliers de validation de certaines variétés.
Bah on parle beaucoup, un peu se reposer les oreilles, on va écouter du Bachung. Tu m'avais dit que tu aimais beaucoup Bachung comme moi aussi.
Allez, Alain.
Allez, on y va.
On t'écoute.
Te réveille pas surtout. Je vais vais pas faire de bruit, juste un café et c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai je sais pas où. Oh, 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 oh. Bijoux, bijoux, le temps ça pourrit tout.
C'est beau, bijou, bijou. Hein.
Et c'est un enfant du houblon. Hein.
En
il
plus,
est né, il est né à Wingersheim.
À Wingersheim,
donc on est
ouais.
en plein dans le territoire ouais, ouais. des houblonniers. Là.
Les houblonnières, et en plus, il parle de bijou, bijou, ça peut très bien être bijou, bijou, perle.
C'est peut-être un clin d'œil.
C'est peut-être un petit clin d'œil, tu vois. Hein. Alors, parle-moi un petit peu de ton projet. Comment est né? Comment tu avais cette envie de revenir, refaire la brasserie de tes ancêtres? Comment?
J'ai parlé de contagion. Le brasseur, c'est le plus beau métier du monde.
Ah bon?
Ah oui. Mais... et en plus, on fabrique la plus belle boisson au monde.
Oui, mais brasseur, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour être brasseur? Demain, moi, dans ma cuisine, je suis brasseur, je fais de la bière, j'ai pas besoin de passer par...
On n'en a pas besoin, mais ça aide.
Ça aide quand même.
Ouais. Ouais. Et donc, moi, après le bac, alors j'ai baigné, t'as dit que j'ai baigné. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je suis un peu un enfant de... Allez, Eurobière, qui était la biennale
De Bernard Rottmann, qui s'occupait de ça.
De la fameuse bande.
Ouais,
et
ouais.
Donc là, je me rends compte que il n'y avait pas que l'univers un peu sinistre de ces brasseries alsaciennes qui étaient en train de fermer les unes après les autres, mais qu'il y avait aussi des brasseries qui ouvraient, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Et aussi, la Bible, pour moi, c'était Michael Jackson. Alors, Michael Jackson, c'était un des premiers biérologues.
C'est pas vrai, il buvait de la bière?
Là, on parle pas du même, mais le mien, c'est le premier biérologue, donc c'est un barbu anglais qui va arpenter toutes les brasseries de la planète et qui va écrire, qui va être le premier à écrire vraiment comme un biérologue sur toutes ces brasseries et toutes ces bières qui sont présentes et actives à travers la planète. Et ça, c'est mon livre de chevet, si tu veux. Et donc, au fil des années, je visite des brasseries.
À l'autre bout du monde, tu vas
non,
voyager
pas jusqu'à l'autre bout du monde.
Ouais,
pas,
mais t'as
pas,
été aux États-Unis,
pas quand
je crois.
J'étais ado. Non, après d'abord c'est la rencontre de terroirs brassicoles comme la région de Bruxelles avec des brasseries comme Cantillon ou la Franconie avec des brasseries comme Schenkerla dans le coin de la ville de Bamberg par exemple, qui sont des villes brassicoles magnifiques. Et en fait après on passe d'une passion à se rendre compte que en fait ça peut devenir un métier. Et là, je pars me former, du coup, à l'école de brasserie d'Édimbourg. Et j'obtiens mon diplôme.
Alors, en Écosse?
Oui, en Écosse.
Et t'es resté combien de temps, là-bas, en Écosse?
Eh bien, j'ai tellement aimé qu'après mes études, j'ai travaillé là-bas plusieurs années. Et donc, après 8 années...
T'as passé 8 ans en Écosse?
Ouais,
j'ai passé des paysages somptueux, non?
Somptueux, l'occasion
de
rencontrer ma femme aussi, alsacienne, mais qui était venue...
Que tu as rencontré là-bas?
Voilà, qui est venue...
Elle s'appelle Anne, je crois.
Elle s'appelle Anne, ouais. Ouais, qu'on salue. qui était venue faire un stage, justement, à la même brasserie où moi je travaillais. Et après, on a réussi à partir ensemble au Nigeria, en Afrique, pendant 1 an, et puis 2 ans après...
Et toujours pour apprendre à brasser.
En brasserie, oui, oui. Et elle avait réussi à s'occuper aussi, trouver des boulots pas inintéressants non plus. Et après 2 ans, pour moi, le territoire qui est celui où il y a vraiment eu cette renaissance de la bière et de la bière artisanale qui est le continent américain, quoi. Et donc, après ça, en 2007... On choisit de revenir en Alsace et aussi au fil de ces années, je me rends compte de ce qu'a pu être Perle et de la force et de l'image qu'elle véhicule encore, quoi. Et là, je construis mon projet de renaissance de cette bière familiale.
Tu fais exactement la même bière que tes aïeux? C'est à peu près la même chose ou tu as changé avec tout ce que tu as appris?
Les recettes de bière évoluent tout régulièrement, donc je revendique pas, ce serait du bluff de marketing de dire que c'est la recette de l'ancêtre, mais c'est sûr que dans le process de notre pils, hein, la bière phare de notre production, on fait attention à travailler dans l'esprit des brasseurs alsaciens de l'époque, en utilisant notamment une fermentation base, des longues gardes à froid à 0 degré, des houblons en cône alsaciens. Donc le houblon dans sa forme la plus originelle.
Le houblon amène l'amertume dans la bière?
Le houblon amène l'amertume et de l'aromatique aussi. Parce qu'on va sentir les premiers, le premier nez qu'on va sentir, on va des fois avoir des notes herbacées, des notes épicées, des notes fruitées. Ça, c'est souvent en grande partie dû au houblon.
Parce que hier soir, quand j'ai visité ta salle, c'est pas une salle de brassage, là où tu as toutes ces grandes citernes, là-dedans, en fait, il y a un bouillon dedans. C'est de l'eau sucrée. Comment qu'est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ou...
Alors, c'est trois grands... La prochaine fois, on fera ça à la brasserie. Mais on parle de salle de brassage. Hein, et la salle de brassage, c'est la première étape. C'est ce que moi, j'aime bien appeler la cuisine. Où là, on va tout mélanger. On va mélanger nos ingrédients.
C'est pas là où tu as les citernes. C'est en dessous.
Alors, les cuves de fermentation qui sont en face, ça, c'est la deuxième étape. Et là, après qu'on ait cuisiné notre jus, on va dire... Ça dure à peu près une journée de brassage. Et ben là, on part de l'autre côté, on part en cuve, comme tu dis, ces citernes, ces cylindres. Et là, on part en fermentation. Et là, c'est la magie. Après la cuisine, c'est la magie de la fermentation où le brasseur va se mettre en retrait, va laisser la levure.
Combien de temps une bière, le
à
jus
peu près
reste...
un mois, un, ah, peu, quand un même. Peu près un mois. Il y a une semaine de fermentation, on va dire, et à peu près trois semaines de garde selon les recettes. Ça va être entre 3 et 5 semaines, on va dire. Et après, il ne reste plus qu'à conditionner. Voilà. Donc ça, c'est plus l'aspect technologique. Donc j'aime bien dire trois grandes étapes quand on produit de la bière. La cuisine, qu'on assemble des ingrédients comme un chef. La magie de la fermentation qui va transformer un jus sucré en une boisson pétillante et alcoolisée. Et après, le challenge technologique, la technologie pour mettre ça en fût, en bouteille, sans trahir le produit le plus originalement possible. Quoi.
Il n'y a rien de plus désaltérant quand on a très très soif et l'emportement rapide, Irso, avec la mousse et tout, c'est juste extraordinaire. Quand ça désaltère bien, je trouve.
Quel bonheur de se dire qu'on fabrique un produit qui nous réunit de cette façon, qui
absolument.
Nous fait du bien de cette manière.
Ouais, ouais.
Et quelle chance. Et donc, ouais, on peut se lever heureux tous les matins.
C'est vrai que c'est bien. Alors, hier soir, j'ai vu, c'est magnifique chez toi, enfin, on en parlera un peu plus tard. Vous êtes combien de personnes? T'as un brasseur, t'as toi, t'as ta femme, enfin, vous êtes nombreux.
Alors, j'ai ma femme qui m'accompagne depuis le début de cette aventure, hein, depuis 15 ans, et au fil des années, on a construit une équipe. On est une quinzaine aujourd'hui, on va dire qu'on a scindé, hein, on a en réalité deux entreprises, une qui s'occupe de la fabrication et de la distribution, on va dire en gros, de nos bières, qui va être après redistribuée chez nos différents revendeurs, que ce soit les cafés, hôtels, restaurants, les grandes et moyennes surfaces, les cavistes, les magasins.
T'es présent partout, en fait, Perle, on peut l'acheter partout.
On n'est pas présent partout, on essaye d'être dans les bons endroits, on va dire. Et après, l'autre entreprise... Et donc, cette unité occupe 9 personnes. Et après, on a l'accueil du public, la Stoub, le Biergarten. Et là, alors c'est plus saisonnier. On va dire qu'on est entre 4 et 6 personnes. Pour faire vivre ce lieu d'accueil. Ouais.
Et ce site, comment tu l'as trouvé, ce site, le site où tu es là? Parce que tu me dis que c'est pas Schiltigheim, hein, c'est Cronenbourg.
Techniquement, on est sur le quartier de Cronenbourg.
Quartier de Cronenbourg, d'accord. Ouais. Moi, je pensais que c'était Schillig, parce que voilà, je me suis dit que c'est Schiltigheim.
Alors, bon, on n'est pas loin, on est juste de l'autre côté du tunnel, effectivement.
Ouais, ouais.
Et ben écoute, on était au bon moment, au bon endroit. On a fait, avec notre bâton de pèlerin, on a fait connaître notre projet auprès de tout plein de gens pendant toutes ces années qui nous ont vus grandir et à un moment ce terrain s'est mis à la vente et donc on nous l'a proposé.
Ouais, c'est grand chez toi, c'est grand, l'extérieur comme l'intérieur, ouais, c'est...
Effectivement c'est grand, mais je rappelle à tout le monde qu'on reste une petite entreprise artisanale.
Ouais.
Voilà.
Mais ça on le sent quand on voit ta bière, c'est pas,
ouais,
c'est pas de l'industrie.
C'est important, c'est l'important. Et
après t'as tout fait en bois, il y a du bois partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ce Beer Garden c'est une excellente idée, c'est un peu comme Drüben en Allemagne, chez les Bavarois.
C'est des choses très simples finalement qu'on apprécie, moi j'aime beaucoup être dans la nature, j'aime me promener, j'aime boire une bière.
Et puis, donc, puis t'as mis plein d'arbres, j'ai vu
les deux, voilà.
T'as mis plein d'arbres partout, quand ces arbres front de l'ombre, là, ça va être génial.
Oui, après notre été tropical froid, les arbres ont déjà bien bénéficié.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est vrai que ça a déjà bien poussé. Mais oui, c'est vrai que ça commence à avoir de plus en plus de caractère. Le bois, c'est important parce que c'est pas tous les jours qu'on...
C'est quoi? C'est du mélèze, non, je crois?
Alors, c'est beaucoup de bois qui viennent du coin. Il y a du mélèze, il y a du pin, il y a c'est beaucoup d'essences qui viennent des Vosges.
Des Vosges, ouais. De chez... Et qui c'est qui t'a dessiné tout ça? C'est un architecte?
Et alors ça, c'est une belle histoire. C'est la rencontre avec un architecte qui m'avait été présenté quand je suis revenu des US, il y a 15 ans, comme un pionnier dans les bâtiments passifs, les bâtiments écologiques. On s'était un peu perdu de vue. Entre-temps, il avait construit un chai pour des vignerons qui m'avait séduit. Et puis, il y a 4-5 ans, là, quand il a fallu identifier le partenaire pour nous accompagner, voilà, je me suis battu pour qu'il accepte de faire notre projet Et je suis très content de cette belle rencontre et de ce choix qui est quand même un choix fort. Parce que je dois dire que construire un bâtiment voilà, en bois et en paille, c'est quand même des investissements qui ne sont pas négligeables.
C'est une j'imagine, mais c'est une belle réussite. C'est beau, le bois, c'est noble, c'est très noble. Et à l'intérieur aussi.
On s'y sent bien.
Et je pense que
tous les gens qui nous rendent visite nous disent mais je me sens bien, il y a une chaleur naturelle.
Absolument. Et à l'intérieur, il y a du potentiel. Tu pourrais même monter un petit resto et faire le beer garden à l'intérieur.
On travaille là-dessus doucement.
Faire tes virchla avec du CNF, et puis une bonne bière, une Prachtal.
On a déjà une petite offre de restauration qu'on va étoffer au fil des mois. Ouais. C'est le programme.
Et alors, j'étais content parce que hier soir, je suis venu parce que c'était un peu le lancement de la bière de Noël un peu partout, dans pas mal d'endroits. Chez toi, hier soir, il y avait du monde, c'était exceptionnel. J'ai bu ta bière et j'ai rencontré quelqu'un qui a bu une bière et il dit des choses. Il raconte comment, qu'est-ce qu'il a bu. Mets-nous voir ça, si tu veux bien, Thomas.
Comment c'est le beer garden d'abord ? Alors, jeune homme, dites-moi, c'est comment le beer garden ici ?
C'est un endroit très sympa. Je découvre ce soir pour la première fois. C'est assez chouette, c'est très beau. C'est tout en bois, on voit les cuves au loin. C'est vraiment un bel endroit.
C'est pas un peu excentré de Strasbourg ?
Légèrement, mais c'est à quelques coups de pédale du centre-ville. Donc, si on fait un petit effort, je crois que ça vaut le coup de se déplacer pour voir cet endroit qui est assez original et plutôt sympathique.
Et là, vous avez quoi dans votre bière, dans votre verre ?
Là, j'ai une bière qui s'appelle le houblon vert, il me semble, et une bière herbacée. A priori, ils cueillent le houblon le matin, ils la mettent en cuve dès l'après-midi même. Et on a un petit goût de fruité, c'est une très bonne bière, vraiment très appréciable.
Merci beaucoup.
Parfait.
Alors tu vois ta soirée, c'était génial, tu regardes, c'est quelqu'un qui apprécie ta bière, qui connaissait pas trop, il en parle joliment, tu trouves pas ?
Il a tout compris, la houblon vert, c'est exactement ça, on est allé le matin dans les champs chez nos amis houblonniers, on a récolté les cônes et au lieu de les mettre au séchoir comme ils font d'habitude, on les jette directement dans notre brassin et du coup...
Mais ça garde plus de goût, non, si tu...
Alors c'est un goût qui va être unique, c'est un goût qu'on peut uniquement récupérer, c'est un peu comme le vin nouveau, si tu veux, tu peux pas faire du vin nouveau au mois de mars. Donc là c'est ça, ces houblons qui sont assez humides, qui sont du coup pas stables, il faut qu'on s'en serve dans la journée. Et donc on va extraire des notes encore plus fraîches, encore plus végétales et très très agréables.
Et c'est plein de vitamines.
Dire que c'est plus qu'il y a
non,
plus de vitamines
pas,
qu'un autre brassin.
Pose la question.
Pas particulièrement. Mais la bière est comme on l'a dit avant est source de plusieurs vitamines effectivement.
Alors hier soir j'ai quand même écouté un peu dresser mon oreille de journaliste. J'ai entendu quelqu'un qui disait de la cathédrale jusqu'à ta brasserie, tu allais mettre une sorte de navette. Où on pédale de la cathédrale de Strasbourg jusqu'à chez toi et en fait on peut servir des bières comme un peu à München, à Munich. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Est-ce que c'est vrai ça ou pas ?
Alors on a une ou deux idées derrière la tête qui effectivement pourraient nous rappeler ça. Mais ce qui est important c'est de se rendre compte c'est qu'on est effectivement pas loin du tout de la cathédrale à quelques coups de pédale.
On la voit, pas loin.
Et il y a ce tunnel aujourd'hui qui passe entre Cronenbourg et Schiltigheim qui rend vraiment l'accès à la place de Haguenau très très facilement.
Ouais, parce que je trouve que c'est une bonne... Tu connaissais ce tricycle là qu'ils ont en Bavière où les gars ils pédalent, ils sont 7 ou 8 ils sont un peu assis en Amazon et ils pédalent et ils peuvent se servir des bières et picoler pendant qu'ils se baladent.
Allez, une bonne idée. Bonne idée bavaroise à rapatrier en Alsace.
J'étais pas longtemps, j'étais il y a quelques jours en Bavière parce que j'ai pêché à la mouche là-bas dans les belles rivières allemandes. Et là-bas, c'est vrai que j'ai un ami là-bas qui est un boulanger pâtissier qui s'est installé là-bas, qui a monté 8 grandes boulangeries et donc il m'a fait visiter un petit peu des endroits comme ça où il y a des Oktoberfest. Mm-hmm. On a mangé des virchlets et puis j'ai vu ce tricycle là, c'était très rigolo.
Magnifique.
Ouais. Et alors toi aussi, tu es amateur de tricycle, tu fais du vélo tout le temps, je crois. Et
moi, j'aime bien être à vélo, j'aime bien déplacer mes enfants à vélo. La brasserie n'est pas trop loin de la maison, l'école pour les enfants n'est pas très loin non plus, donc ça fonctionne bien.
Et j'ai vu que tu avais un vieux vélo, il y a marqué Perle, c'était le vélo de ton grand-père ?
Non, ça c'est un vieil ami qui nous connaît depuis plusieurs années, qui nous a gentiment... offert. On ne sait pas quoi en faire encore.
Tu trouveras peut-être une petite place pour ce beau vélo. Alors, quels sont tes projets là pour la fin de l'année et pour l'année prochaine ? C'est quoi ?
Alors, dans notre accueil du public, le but, c'est de commencer à proposer de la tarte flambée très, très rapidement.
À l'intérieur comme à l'extérieur.
Voilà, parce que c'est ce que le public nous demande. Donc, on va faire basculer notre offre de restauration qui était à l'époque avec des food trucks et des résidents en une formule qu'on va internaliser, qu'on va donc proposer nous-mêmes des bonnes tartes flambées. Donc là, on travaille fort dessus. Et puis, le deuxième grand projet, c'est d'essayer d'accueillir le maximum de visiteurs qui vont nous rejoindre pour la fin d'année.
La place est là, quoi.
Exactement, ouais. Pour leur faire visiter cette belle brasserie, essayer de leur faire passer un moment convivial chez nous. Ça, c'est vraiment les deux objectifs pour la fin d'année.
J'ai vu aussi que tu faisais une bière sans alcool. Comment elle s'appelle, Perlita?
Alors, on a relancé c'était aussi une marque des ancêtres qui avait lancé...
Déjà à l'époque, ça existait?
Absolument.
Déjà? Ah ouais.
Et alors, Perlita, c'était la version malt drink, c'était une boisson maltée. Donc ça, on n'en est pas encore là, mais on a décidé de faire renaître cette marque dans l'esprit d'une gamme de boissons sans alcool. Et on en a aujourd'hui deux. On a une bière sans alcool, brassée donc avec des céréales, du malt d'orge, des houblons alsaciens d'ailleurs, et qu'on a sorti avant l'été et qui fait son bonhomme de chemin, qui plaît bien. Et là, on vient de sortir tout fraîchement une eau houblonnée. Donc ça, c'est une boisson vraiment zéro calorie, zéro alcool, qui s'appelle aussi Perlita, mais Perlita eau houblonnée. Et là, c'est une infusion de variétés de houblon très aromatiques et qui donne une boisson très, très rafraîchissante, très agréable.
Et on parle bien de ta bière. On voit que tu aimes.
Ah, si on n'était pas passionné, ouais, ce serait pas la même.
Est-ce que tu en nommes heureux?
Comme je t'ai dit, le métier est le plus beau du monde et la bière est la plus belle boisson. Donc, je suis comblé.
Et t'oublies pas Anne, qui tu partages.
J'oublie pas Anne et la petite famille qui nous accompagne dans cette...
C'est important.
Dans cette bête, très important.
Ouais. Ouais. Bah écoute, je te souhaite le meilleur et puis continue comme ça, je viendrai te visiter un de ces quatre aussi pour voir un peu la salle de brassage que j'ai pas vue. Merci d'être venu jusqu'à chez nous, de Radio Judaïka. Je te souhaite le meilleur jusqu'à la fin de l'année. Merci Christian.
Merci beaucoup, merci de votre attention.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.